Chapitre 26. Le cœur et l'esprit. « Milord, dit le comte de la Fère, vous êtes un noble anglais. Vous êtes un homme loyal, vous parlez à un noble français, à un homme de cœur. Cet or, contenu dans les deux barils que voici, je vous ai dit qu'il était à moi, j'ai eu tort. C'est le premier mensonge que j'ai fait de ma vie, mensonge momentané, il est vrai. Cet or, c'est le bien du roi Charles II, exilé de sa patrie, chassé de son palais, orphelin à la fois de son père et de son trône, et privé de tout, même du triste bonheur de baiser à genoux la pierre sur laquelle la main de ses meurtriers a écrit cette simple épitaphe qui criera éternellement vengeance contre eux, ci-gît le roi Charles Ier. » Monk pâlit légèrement et un imperceptible frisson rida sa peau et hérissa sa moustache grise. « Moi, continua Athos, moi, le comte de la Fère, le seul, le dernier fidèle qui reste au pauvre prince abandonné, je lui ai offert de venir trouver l'homme duquel dépend aujourd'hui le sort de la royauté en Angleterre. Et je suis venu, et je me suis placé sous le regard de cet homme, et je me suis mis nu et désarmé dans ses mains en lui disant « Milord, ici est la dernière ressource d'un prince que Dieu fit votre maître, que sa naissance fit votre roi. De vous seul dépendent sa vie et son avenir. Voulez-vous employer cet argent à consoler l'Angleterre des maux qu'elle a dû souffrir pendant l'anarchie, c'est-à-dire voulez-vous aider, ou sinon aider, du moins laisser faire le roi Charles II ? Vous êtes le maître, vous êtes le roi, maître et roi tout-puissant, car le hasard défait parfois l'œuvre du temps et de Dieu. Je suis seul avec vous, milord. Si le succès vous effraie étant partagé, si ma complicité vous pèse, vous êtes armé, milord, et voici une tombe toute creusée. Si, au contraire, l'enthousiasme de votre cause vous enivre, si vous êtes ce que vous paraissez être, si votre main, dans ce qu'elle entreprend, obéit à votre esprit, et votre esprit à votre cœur, voici le moyen de perdre à jamais la cause de votre ennemi, Charles Stuart. Tuez encore l'homme que vous avez devant les yeux, car cet homme ne retournera pas vers celui qui l'a envoyé sans lui rapporter le dépôt que lui confia Charles Ier, son père, et garder l'or qui pourrait servir à entretenir la guerre civile. Hélas, milord, c'est la condition fatale de ce malheureux prince. Il faut qu'il corrompe ou qu'il tue. Car tout lui résiste, tout le repousse, tout lui est hostile. Et cependant, il est marqué du sceau divin et il faut, pour ne pas mentir à son sang, qu'il remonte sur le trône ou qu'il meure sur le sol sacré de la patrie. Milord, vous m'avez entendu. À tout autre qu'à l'homme illustre qui m'écoute, j'eusse dit. Milord, vous êtes pauvre. Milord, le roi vous offre ce million comme art d'un immense marché. Prenez-le et servez Charles II comme j'ai servi Charles Ier. Et je suis sûr que Dieu, qui nous écoute, qui nous voit, qui lit seul dans votre cœur fermé à tous les regards humains, je suis sûr que Dieu vous donnera une heureuse vie éternelle après une heureuse mort. Mais au général Monk, à l'homme illustre dont je crois avoir mesuré la hauteur, je dis « Milord, il y a pour vous dans l'histoire des peuples et des rois une place brillante, une gloire immortelle, impérissable. » Si seul, sans autre intérêt que le bien de votre pays et l'intérêt de la justice, vous devenez le soutien de votre roi. Beaucoup d'autres ont été des conquérants et des usurpateurs glorieux. Vous, milord, vous vous serez contenté d'être le plus vertueux, le plus probe et le plus intègre des hommes. Vous aurez tenu une couronne dans votre main et au lieu de l'ajuster à votre front, vous l'aurez déposée sur la tête de celui pour lequel elle avait été faite. Ô milord, agissez ainsi et vous lèguerez à la postérité le plus envié des noms qu'aucune créature humaine puisse s'enorgueillir de porter. » Athos s'arrêta. Pendant tout le temps que le noble gentilhomme avait parlé, Monk n'avait pas donné un signe d'approbation ni d'improbation. À peine même si, durant cette véhémente allocution, Ses yeux s'étaient animés de ce feu qui indique l'intelligence. Le comte de la Fère le regarda tristement et, voyant ce visage morne, sentit le découragement pénétrer jusqu'à son cœur. Enfin, Monk parut s'animer et, rompant le silence, « Monsieur, dit-il d'une voix douce et grave, je vais, pour vous répondre, me servir de vos propres paroles. À tout autre qu'à vous, je répondrai par l'expulsion, la prison ou pis encore. Car enfin, vous me tentez et vous me violentez à la fois. Mais vous êtes un de ces hommes, monsieur, à qui l'on ne peut refuser l'attention et les égards qu'ils méritent. Vous êtes un brave gentilhomme, monsieur, je le dis et je m'y connais. Tout à l'heure, vous m'avez parlé d'un dépôt que le feu roi transmit pour son fils. N'êtes-vous donc pas un de ces Français qui, je l'ai ouï dire, ont voulu enlever Charles à Whitehall ?»« Oui, milord, c'est moi qui me trouvais sous l'échafaud pendant l'exécution. Moi qui, n'ayant pu le racheter, reçus sur mon front le sang du roi martyr. Je reçus en même temps la dernière parole de Charles Ier. C'est à moi qu'il a dit « Remember », en me disant « Souviens-toi ». Il faisait allusion à cet argent qui est à vos pieds, milord. J'ai beaucoup entendu parler de vous, monsieur, dit Monk, mais je suis heureux de vous avoir apprécié tout d'abord par ma propre inspiration et non par mes souvenirs. Je vous donnerai donc des explications que je n'ai données à personne, et vous apprécierez quelle distinction je fais entre vous et les personnes qui m'ont été envoyées jusqu'ici. Athos s'inclina, s'apprêtant à absorber avidement les paroles qui tombaient une à une de la bouche de Monk, ces paroles rares et précieuses comme la rosée dans le désert. Vous me parliez, dit Monk, du roi Charles II. Mais je vous prie, monsieur, dites-moi, que m'importe à moi ce fantôme de roi? J'ai vieilli dans la guerre et dans la politique, qui sont aujourd'hui liées si étroitement ensemble que tout homme d'épée doit combattre en vertu de son droit ou de son ambition, avec un intérêt personnel, et non aveuglément derrière un officier, comme dans les guerres ordinaires. Moi, je ne désire rien peut-être, mais je crains beaucoup. Dans la guerre, aujourd'hui, réside la liberté de l'Angleterre et peut-être celle de chaque Anglais. Pourquoi voulez-vous que, libre dans la position que je me suis faite, j'aille tendre la main au fer d'un étranger ? Charles n'est que cela pour moi. Il a livré ici des combats qu'il a perdus, c'est donc un mauvais capitaine. Il n'a réussi dans aucune négociation, c'est donc un mauvais diplomate. Il a colporté sa misère dans toutes les cours de l'Europe, c'est donc un cœur faible et pusillanime. Rien de noble, rien de grand, rien de fort n'est encore sorti de ce génie qui aspire à gouverner un des plus grands royaumes de la terre. Donc, je ne connais ce Charles que sous de mauvais aspects, et vous voudriez que moi, homme de bon sens, j'allasse me faire gratuitement l'esclave d'une créature qui m'est inférieure en capacité militaire, en politique et en dignité ? Non, monsieur, quand quelque grande et noble action m'aura appris à apprécier Charles, je reconnaîtrai peut-être ses droits à un trône dont nous avons renversé le père, parce qu'il manquait des vertus qui jusqu'ici manquent au fils. Mais jusqu'ici, en fait de droit, je ne reconnais que les miens. La Révolution m'a fait général, mon épée me fera protecteur si je veux. Que Charles se montre, qu'il se présente, qu'il subisse le concours ouvert au génie, et surtout qu'il se souvienne qu'il est d'une race à laquelle on demandera plus qu'à tout autre. Ainsi, monsieur, n'en parlons plus. Je ne refuse ni n'accepte. Je me réserve, j'attends. Athos avait Monk trop bien informé de tout ce qui avait rapport à Charles II pour pousser plus loin la discussion. Ce n'était ni l'heure ni le lieu. « Milord, dit-il, je n'ai donc plus qu'à vous remercier. »« Et de quoi, monsieur ? De ce que vous m'avez bien jugé et de ce que j'ai agi d'après votre jugement ? Oh, vraiment, est-ce la peine ? Cet or que vous allez porter au roi Charles va me servir d'épreuve pour lui. » En voyant ce qu'il en saura faire, je prendrai sans doute une opinion que je n'ai pas. Cependant, votre honneur ne craint-il pas de se compromettre en laissant partir une somme destinée à servir les armes de son ennemi ? Mon ennemi, dites-vous ? Eh, monsieur, je n'ai pas d'ennemi, moi. Je suis au service du Parlement qui m'ordonne de combattre le général Lambert et le roi Charles, ses ennemis à lui et non les miens. Je combats donc. Si le Parlement, au contraire, m'ordonnait de faire pavoiser le port de Londres, de faire assembler les soldats sur le rivage, de recevoir le roi Charles II, vous obéiriez ? S'écria Athos avec joie. Pardonnez-moi, dit Monk en souriant. J'allais, moi, une tête grise ? En vérité, où avais-je l'esprit ? J'allais, moi, dire une folie de jeune homme. Alors vous n'obéiriez pas ? Dit Athos. Je ne dis pas cela non plus, monsieur. Avant tout, le salut de ma patrie. Dieu, qui a bien voulu me donner la force, a voulu sans doute que j'eusse cette force pour le bien de tous, et il m'a donné en même temps le discernement. Si le Parlement m'ordonnait une chose pareille, je réfléchirais. Athos assombrit. Allons, dit-il, je le vois, décidément votre honneur n'est point disposé à favoriser le roi Charles II. Vous me questionnez toujours, monsieur le comte, à mon tour, s'il vous plaît. Faites, monsieur, et puisse Dieu vous inspirer l'idée de me répondre aussi franchement que je vous répondrai. Quand vous aurez rapporté ce million à votre prince, quel conseil lui donnerez-vous ? Athos fixa sur Monk un regard fier et résolu. Milord, dit-il, avec ce million que d'autres emploieraient à négocier peut-être, je veux conseiller au roi de lever 2 régiments, d'entrer par l'Écosse que vous venez de pacifier, de donner au peuple des franchises que la Révolution lui avait promises et n'a pas tout à fait tenues. Je lui conseillerais de commander en personne cette petite armée qui se grossirait, croyez-le bien, de se faire tuer le drapeau à la main et l'épée au fourreau en disant « Anglais, voilà le 3e roi de ma race que vous tuez, prenez garde à la justice de Dieu. » Monk baissa la tête et rêva un instant. S'il réussissait, dit-il, ce qui est invraisemblable, mais non pas impossible, car tout est possible en ce monde. Que lui conseilleriez-vous ? De penser que par la volonté de Dieu, il a perdu sa couronne, mais que, par la bonne volonté des hommes, il l'a recouvrée. Un sourire ironique passa sur les lèvres de Monk. Malheureusement, monsieur, dit-il, les rois ne savent pas suivre un bon conseil. Ah, milord, Charles II n'est pas un roi, répliqua Athos en souriant à son tour, mais avec une toute autre expression que n'avait fait Monk. Voyons, abrégeons, monsieur le comte, c'est votre désir, n'est-il pas vrai ? Athos s'inclina. Je vais donner l'ordre qu'on transporte où il vous plaira ces 2 barils. Où demeurez-vous, monsieur ? Dans un petit bourg à l'embouchure de la rivière, votre honneur. Oh, je connais ce bourg. Il se compose de 5 ou 6 maisons, n'est-ce pas ? C'est cela. Eh bien, j'habite la première. 2 faiseurs de filets l'occupent avec moi. C'est leur barque qui m'a mise à terre. Mais votre bâtiment à vous, monsieur ? Mon bâtiment est à l'ancre, à 1/4 mille en mer, et m'attend. Vous ne comptez cependant point partir tout de suite ? Milord, j'essaierai encore une fois de convaincre votre honneur. Vous n'y parviendrez pas, répliqua Monk. Mais il importe que vous quittiez Newcastle sans y laisser de votre passage le moindre soupçon qui puisse nuire à vous ou à moi. Demain, mes officiers pensent que Lambert m'attaquera. Moi, je garantis au contraire qu'il ne bougera point. C'est à mes yeux impossible. Lambert conduit une armée sans principes homogènes et il n'y a pas d'armée possible avec de pareils éléments. Moi, j'ai instruit mes soldats à subordonner mon autorité à une autorité supérieure, ce qui fait qu'après moi, autour de moi, au-dessus de moi, ils tentent encore quelque chose. Il en résulte que, moi mort, ce qui peut arriver, mon armée ne se démoralisera pas tout de suite. Il en résulte que, s'il me plaisait de m'absenter, par exemple, comme cela me plaît quelquefois, Il n'y aurait pas dans mon camp l'ombre d'une inquiétude ou d'un désordre. Je suis l'aimant, la force sympathique et naturelle des Anglais. Tous ces fers éparpillés qu'on enverra contre moi, je les attirerai à moi. » Lambert commande en ce moment 18 000 déserteurs. Mais je n'ai point parlé de cela à mes officiers, vous le sentez bien. Rien n'est plus utile à une armée que le sentiment d'une bataille prochaine. Tout le monde demeure éveillé, tout le monde se garde. Je vous dis cela à vous pour que vous viviez en toute sécurité. Ne vous hâtez donc pas de repasser la mer. D'ici à 8 jours, il y aura quelque chose de nouveau, soit la bataille, soit l'accommodement. Alors, comme vous m'avez jugé honnête homme et confié votre secret, et que j'ai à vous remercier de cette confiance, j'irai vous faire visite ou vous manderai. Ne partez donc pas avant mon avis, je vous en réitère l'invitation. « Je vous le promets, général !» s'écria Athos, transporté d'une joie si grande que, malgré toute sa circonspection, il ne put s'empêcher de laisser jaillir une étincelle de ses yeux. Monk surprit cette flamme et l'éteignit aussitôt par un de ces muets sourires qui rompaient toujours chez ses interlocuteurs le chemin qu'il croyait avoir fait dans son esprit. « Ainsi, milord, dit Athos, c'est 8 jours que vous me fixez pour délai ?»« 8 jours, oui, monsieur. » « Et pendant ces 8 jours, que ferai-je ? » ?»« S'il y a bataille, tenez-vous loin, je vous prie. Je sais les Français curieux de ces sortes de divertissements. Vous voudriez voir comment nous nous battons et vous pourriez recueillir quelques balles égarées. Nos Écossais tirent fort mal et je ne veux pas qu'un digne gentilhomme tel que vous regagne blessé la terre de France. Je ne veux pas enfin être obligé de renvoyer moi-même à votre prince son 1 000 000 laissé par vous. Car alors on dirait, et cela avec quelque raison, que je paie le prétendant pour qu'il guerroie contre le Parlement. Allez donc, monsieur, et qu'il soit fait entre nous comme il est convenu. Ah, milord, dit Athos, quelle joie ce serait pour moi d'avoir pénétré le premier dans ce noble cœur qui bat sous ce manteau. Vous croyez donc décidément que j'ai des secrets ? Dit Monk sans changer l'expression demi-enjouée de son visage. « Eh, monsieur, quel secret voulez-vous donc qu'il y ait dans la tête creuse d'un soldat ? Mais il se fait tard, et voici notre falot qui s'éteint. Rappelons notre homme. « Hola !» cria Monk en français, et, s'approchant de l'escalier, « Hola, pêcheur !» Le pêcheur, engourdi par la fraîcheur de la nuit, répondit d'une voix enrouée en demandant quelle chose on lui voulait. « Va jusqu'au poste, dit Monk, et ordonne au sergent, de la part du général Monk, de venir ici sur le champ. » C'était une commission facile à remplir, car le sergent, intrigué de la présence du général en cette abbaye déserte, s'était approché peu à peu et n'était qu'à quelques pas du pêcheur. L'ordre du général parvint donc directement jusqu'à lui et il accourut. « Prends un cheval et 2 hommes, » dit Monk. « Un cheval et 2 hommes ?» répéta le sergent. « Oui, » reprit Monk. « As-tu en moyen de te procurer un cheval avec un bât ou des paniers ?»« Sans doute, à 100 pas d'ici, au camp des Écossais. »« Bien. Que ferai-je du cheval, général ?» « Regarde !» Le sergent descendit les 3 ou 4 marches qui le séparaient de Monk et apparut sous la voûte. « Tu vois, lui dit Monk, là-bas où est ce gentilhomme ?»« Oui, mon général. »« Tu vois ces 2 barils ?»« Parfaitement. »« Ce sont 2 barils contenant l'un de la poudre, l'autre des balles. »« Je voudrais faire transporter ces barils dans le petit bourg qui est au bord de la rivière » et que je compte faire occuper demain par 200 mousquets. Tu comprends que la commission est secrète, car c'est un mouvement qui peut décider du gain de la bataille. « Oh, mon général !» murmura le sergent. « Bien, fais donc attacher ces 2 barils sur le cheval, et qu'on les escorte, 2 hommes et toi, jusqu'à la maison de ce gentilhomme qui est mon ami. Mais tu comprends que nul ne le sache. » « Je passerai par le marais si je connaissais un chemin, » dit le sergent. « J'en connais un, moi, » dit Athos. Il n'est pas large, mais il est solide, ayant été fait sur pilotis, et avec de la précaution, nous arriverons. Faites ce que ce cavalier vous ordonnera, dit Monk. Oh, oh, les barils sont lourds, dit le sergent, qui essaya d'en soulever un. Ils pèsent 400 livres chacun, s'ils contiennent ce qu'ils doivent contenir, n'est-ce pas, monsieur ?
À peu près, dit Athos.
Le sergent alla chercher le cheval et les hommes. Monk, resté seul avec Athos, affecta de ne plus lui parler que de choses indifférentes, tout en examinant distraitement le caveau. Puis, entendant le pas du cheval,
« Je vous laisse avec vos hommes, monsieur, dit-il, et retourne au camp. Vous êtes en sûreté. »
« Je vous reverrai donc, milord, demanda Athos.
« C'est chose dite, monsieur, et avec grand plaisir. »
Monk tendit la main à Athos.
« Oh, milord, si vous vouliez !» murmura Athos.
« Chut, monsieur, dit Monk, il est convenu que nous ne parlerons plus de cela. » Et, saluant Athos, il remonta, croisant au milieu de l'escalier ses hommes qui descendaient. Il n'avait pas fait 20 pas hors de l'abbaye qu'un petit coup de sifflet lointain et prolongé se fit entendre. Monk dressa l'oreille. Mais, ne voyant plus rien et n'entendant plus rien, il continua sa route. Alors il se souvint du pêcheur et le chercha des yeux, mais le pêcheur avait disparu. S'il eût cependant regardé avec plus d'attention qu'il ne le fit, il eût vu cet homme courbé en deux, se glissant comme un serpent le long des pierres et se perdant au milieu de la brume, rasant la surface du marais. Il eût vu également, essayant de percer cette brume, un spectacle qui eût attiré son attention. C'était la mâture de la barque du pêcheur qui avait changé de place et qui se trouvait alors au plus près du bord de la rivière. Mais Monk ne vit rien, et, pensant n'avoir rien à craindre, il s'engagea sur la chaussée déserte qui conduisait à son camp. Ce fut alors que cette disparition du pêcheur lui parut étrange et qu'un soupçon réel commença d'assiéger son esprit. Il venait de mettre aux ordres d'Athos le seul poste qui pût le protéger. Il avait 1 mille de chaussée à traverser pour gagner son camp. Le brouillard montait avec une telle intensité qu'à peine pouvait-on distinguer les objets à une distance de 10 pas. Monk crut alors entendre comme le bruit d'un aviron qui battait sourdement le marais à sa droite.
« Qui va là ? » cria-t-il.
Mais personne ne répondit. Alors il arma son pistolet, mit l'épée à la main et pressa le pas sans cependant vouloir appeler personne. Cet appel, dont l'urgence n'était pas absolue, lui paraissait indigne de lui.